Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, vous vous penchez ce matin sur la notion de paysage. Elle est récente, cette notion. Le mot n'apparaît en français qu'en 1549, exactement, 1549, je vais y arriver. Une notion qui désigne une étendue de pays. Aujourd'hui, Jacques, elle est intimement liée à notre relation sensible à la nature.
Eh oui, paysage, village, bocage, alpage, rivage et même visage, tous ces mots en « âge » portent une charge émotionnelle particulière. Ils expriment des sensations médiatisées par des valeurs ou des souvenirs. C'est la remarque inaugurale que fait Martin de la Soudière dans le livre qui vient de paraître chez Anna Mosa sous le titre « Arpenter le paysage », poètes, géographes et montagnards. L'ethnologue de la France rurale, auteur notamment d'une poétique du village, a rassemblé ses souvenirs de randonnée en montagne, ses notes de terrain et ses moments de lecture pour ébaucher une réponse à cette question. Comment entre-t-on en paysage? Avec quels effets sur les sens ou la vue et sur le rendu de chacun dans son rôle, paysagiste ou poète, peintre ou géographe. Un livre polyphonique, donc, à la mesure de son sujet, de ceux qui, comme l'affirmait Julien Gracq dans les carnets du Grand Chemin, ne s'éveillent sous les doigts qu'à la manière des grandes orgues grâce à la superposition de multiples claviers. L'auteur est un habitué de la montagne avec une prédilection pour le Massif central et les Pyrénées. Que nous fait un sommet, demande-t-il. Il y a l'aspect d'abord personnel de la performance. Tout sommet émarge à un registre moral. Il se mérite, il a à voir avec le ciel. Pour le paysagiste, ce sera l'achèvement de la forme. Pour le poète, le sentiment de se tenir au bord de l'horizon. À tous, il produit un sentiment de plénitude et de pouvoir, celui de toiser toute une région après avoir eu jusqu'ici laborieusement à l'arpenter. Ascension, élévation. Quand tu es parvenu au sommet de la montagne, continue à monter, dit un proverbe chinois. Qu'est-ce qui nous parle dans un paysage, s'interroge Julien Gracq. Tout ce qui, dans la distribution des couleurs, des ombres et des lumières, y fait une part plus apparente aux indices de l'heure et de la saison. D'où le fait que le paysage minéralisé par l'heure de midi retourne à l'inertie du regard, tandis que le paysage du matin et plus encore celui du soir atteignent à une transparence inaugurale, où si tout est chemin, tout est aussi pressentiment. L'écrivain se demande aussi quel est le motif de la quête qu'il entraîne au long du chemin. Quelquefois, il m'a semblé que j'y poursuivais le règne enfin établi d'un élément pur, l'arbre, la prairie, le plateau nu à perte de vue, afin de m'y intégrer et de m'y dissoudre. Parmi les compagnons de route de Martin de la Soudière, il y a également Jean-Loup Trassard et Philippe Jacotet, Pierre Sansot, André Dautel ou encore le voyageur immobile Fernando Pessoa. Ce qui les distingue des écrivains voyageurs qui voyagent pour écrire, c'est qu'eux écrivent pour voyager et nous embarquent dans leur périple intérieur. La parole est une compétence naturelle, générique. L'écriture est une technique. Ce qu'est l'écriture à la parole, le paysage l'est à l'environnement. Le soleil se couche et se lève chez moi, disait Corot, qui donnait aussi ce conseil. Avant de peindre un paysage, il faut savoir s'asseoir. L'épopée discrète de ceux qui travaillent sur le motif, d'après nature et en plein air, est évidemment présente dans l'album de Martin de la Soudière. Le paysage a fait de moi un peintre, confiait Constable. Dans un livre publié au Seuil sous le titre Le détail du monde, l'art perdu de la description de la nature, Romain Bertrand évoque la difficulté à trouver les mots pour dire le plus banal des paysages. Un pré déjà nous met à la peine que grêle l'aigre moine, le cirse et l'encolie. L'historien s'est mis en quête de cette langue perdue au temps où Goethe caressait avec Humboldt et d'autres le rêve d'une histoire naturelle attentive à tous les êtres, des lichens aux coléoptères ou aux oiseaux. Que la nature en vous balbutie son mystère, écrivait-il dans l'élégie de Marion Bade. La peinture de paysages s'autorisait alors des forces combinées de la science et de la littérature pour s'élever au rang d'un savoir crucial. À preuve, parmi de nombreux autres, le cas du bourlingueur polyvalent, reporter de guerre, qui suppléait sur le terrain aux difficultés de la photographie naissante par un don certain pour le dessin, Louis Tinet, chargé lors de l'exposition universelle de 1900 de réaliser une fresque sur la prise de Madagascar. Le problème qui se pose à lui est de représenter le ciel, 120 mètres de dais d'azur peinture à peindre. Pour obtenir la vibration lumineuse du bleu du ciel, il fait disposer une série de pointillés dans une déclinaison de tons en gradation. La revue L'Alpe s'est exceptionnellement délocalisée dans les Pyrénées pour voir une réserve internationale de ciel étoilé. Le label a été décerné en 2013 au pic du Midi. La pollution lumineuse y est réduite et le télescope de l'observatoire peut scruter à l'aplomb des astres les avatars du trou dans la couche d'ozone, les pluies acides ou encore les gaz à effet de serre. Il arrive un moment où c'est l'environnement qui écrit le paysage.